Aujourd'hui, dans le VéloGeek Podcast, un spécial question-réponse 100% sur le positionnement. Est-ce que les applications automatisées de positionnement comme MyVéloFit peuvent être une alternative intéressante? Notre opinion sur les produits Redshift comme la potence à suspension, ainsi que notre opinion sur les selles faites sur mesure. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Romain Girard, un spécialiste en positionnement d'origine française, mais présentement basé en Angleterre. Bienvenue dans le VéloGeek Podcast. VéloGeek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. VéloGeek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec, disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levelomag.com. Hey, merci Romain d'être là avec moi aujourd'hui pour répondre aux questions, des bonnes questions que j'ai eues des auditeurs et surtout la première question parce que je crois que tu as eu vraiment une expérience très particulière avec ça. Dans le fond, je vais nommer la première question, c'est « Bonjour Martin, que pensez-vous des applications comme MyVéloFit études posturales réalisables en ligne pour moins de 100$? » Donc, moi, j'ai une opinion extérieure de point de vue concept, je l'observe. Mais toi, tu l'as carrément expérimenté dans ta pratique en positionnement. Dans le fond, t'as fait des tests.
Ouais, c'est ça. Alors déjà, bonjour et merci de m'avoir dans ton pod. C'est super et ça va être sympa de discuter de différentes choses en positionnement. Ça peut être bien d'en apprendre plus. C'est toujours sympa de communiquer comme ça. Mais donc pour revenir à ma VéloFit, ouais, c'est quelque chose où on entend parler de plus en plus. Comme tu dis, il y a un prix comme ça, ça peut être extrêmement intéressant. Et pas mal de personnes commençaient à en parler. J'avais aussi pas mal de questions. Donc du coup, j'ai voulu l'essayer moi-même. Donc je suis allé sur le site, j'ai acheté la partie premier prix, donc c'est $35 je crois en premier prix, et une option plus développée pour $70 qui nous donne, je crois que c'est un an avec beaucoup plus de positions, de profils, des choses comme ça, donc c'est plus évolué, mais je voulais juste avoir une idée sur la version de base. Donc j'ai pris l'abonnement à $35 qui nous permet d'avoir une semaine pour uploader des vidéos sur notre position.
Donc je l'ai fait en deux fois. Analysé d'un point de vue de ton œil de spécialiste en positionnement, mais avec toute l'ouverture d'esprit par rapport aux résultats finalement.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai voulu juste dire, voilà, je me mets sur le vélo, je fais un enregistrement, je me mets dans l'impôt d'un cycliste lambda qui fait pas d'études posturales et qui veut avoir une étude posturale avec ce système-là. Donc, je l'ai utilisé en deux fois. La première fois tout seul. Là où, par contre, j'ai pas très bien démarré parce que j'ai démarré d'une position qui était pour moi bonne. J'ai été sur mon kick bike qui était déjà réglé pour moi. Et donc du coup c'était quand même intéressant de voir les commentaires, mais c'était pas peut-être pas réaliste d'une position qui peut être fausse du début. Mais donc la deuxième fois où donc je suis allé voir un collègue Tony, où là on a fait des essais ensemble et on a volontairement démarré d'une position d'un vélo qui était beaucoup trop grand pour justement voir trop grand. Et voir quelles étaient les remarques et les commentaires et les conseils de l'application. Et donc si on oublie le premier, parce que bon, c'était intéressant, mais on le retrouve aussi sur le deuxième, donc c'est autant parler de celui-là. On est démarré d'une position trop haute et d'un guidon trop loin. Et aussi potentiellement trop bas, mais c'était encore ça allait un peu, mais on était vraiment trop loin. Là aussi, on était sur un vélo spécialisé pour faire des études posturales, donc ça permet de faire des ajustements rapidement et facilement. Et donc, on a fait la première vidéo, on l'a mis dans le système, et là, pareil, c'était vraiment de se baser. Nous, en tant que spécialistes du positionnement, on ne change rien, on fait simplement ce que l'application nous dit. Et au final, on a fait 5 vidéos parce que sur la première option, on peut faire que 5 vidéos par jour. Donc, on a fait les 5 et puis on s'est arrêté là. Mais on est arrivé à une hauteur de selle qui était à peu près correct. Je crois qu'on était encore 10 ou 12 mm trop par rapport à ma selle, à hauteur de selle optimale. Mais on va dire que bon, dans l'absolu, 10 mm, c'est pas énorme, et là, ça devient peut-être un peu plus de la personnalisation et de la préférence.
Ça peut devenir même une marge de manœuvre, une marge d'erreur de l'instrument de mesure, des captures de mouvements vidéo à ce point-là.
Ouais, exactement, ouais. Mais donc du coup, 10 mm dans l'absolu, c'est pas trop loin, quoi. C'est pas parfait, mais je sais exactement ce qu'il me faut. Mais pour quelqu'un qui était très loin de sa position idéale, arriver à peu près 10 mm, on est quand même plutôt correct. Par contre, là où ça posait problème, c'était sur le guidon, parce que on a fait la première vidéo et on nous disait de ramener le guidon de 10 mm et l'augmenter de 10 mm. Et sur la deuxième vidéo, pareil. Donc on revient de 10, on remonte de 10, et sur la troisième, et sur la quatrième. Donc au final, on a reculé le guidon de 40 mm, et on a remonté le guidon de 40 mm. Donc sur un outil spécialisé comme celui qu'on avait, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, si on est juste sur son vélo, ça fait 4 potences. Ça fait des cales qui ne sont pas forcément disponibles pour augmenter suffisamment en hauteur. Donc ça peut devenir très cher, très problématique, surtout si en plus on a des câbles intégrés à la potence et une potence intégrée au guidon. Là, c'est même pas la peine, il n'y a pas de flexibilité.
Parce que contrairement à aller voir un spécialiste comme toi ou moi, où qu'on peut faire des tests à différentes longueurs de potence et choisir ultimement la seule qui serait la bonne, finalement, là, finalement, c'est à chaque fois, c'est un peu une recommandation, finalement, une prescription. Mais comme dans ton cas, on a vu, ça a été quatre prescriptions consécutives, finalement.
Ouais. Et en fait, le problème, c'est parce que mon dos était à un angle de 39 degrés. Et enfin, au début, il démarrait à 33, donc on a réduit et on est arrivé à la troisième position où j'étais à 39 degrés. Mais le système voulait me mettre entre 43 et 49. C'est ce qu'ils avaient sur les plages de mesure. Mais le problème, c'est que mon dos ne veut pas remonter. C'est l'angle qu'il a sur le vélo. Et donc, du coup, ils essayaient de me rapprocher de manière à remonter le dos. Mais ce qui se passait, c'est que je rentrais les épaules et je pliais les bras, mais à aucun moment je redressais le dos. Et donc, ça, c'est quelque chose que le système n'a pas détecté. Donc là, on voyait clairement une limitation et ça ne permet pas d'obtenir une position optimale sur le guidon.
Puis ultimement, en plus, c'est ça, c'est que c'est vraiment une question de cible simplement par rapport à une référence, disons, entre la hanche et l'épaule. Donc, il ne va pas non plus observer ce qui serait comme une courbe rachidienne, à voir si le dos se devient plus droit ou moins droit. C'est simplement sur ces deux points de référence-là qu'ils vont calculer une cible finalement pour entrer dans un moule standard finalement.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est là, en fait, qu'au final, l'intelligence artificielle, au final, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle. Ça reste un programme, au même titre que Rétule ou bikefitting.com ou Guru, enfin, STT, il y en a plein, mais ça reste, voilà, quelque chose au même niveau, où on va avoir certains points sur le corps, mesurer des angles, et essayer d'adapter le corps entre ces angles-là et d'obtenir quelque chose au final qui soit cohérent par rapport à l'objectif. Mais voilà, ça reste sur des données théoriques. Mais c'est là où justement, si l'intelligence artificielle, s'il y avait vraiment une intelligence artificielle, ça aurait été capable de détecter que mon dos ne bougeait pas plus. Et de dire, d'accord, bon, donc ça devient la mesure correcte. Maintenant, on va adapter les autres et voir comment les autres mesures réagissent. Là, ça pourrait ramener une intelligence artificielle qui, au final, serait assez développée.
Parce que là, on parle, ils appellent ça de l'intelligence artificielle, mais ultimement, c'est pas bon, c'est un terme, disons, qui est très populaire, qui est très à la mode,
C'est
finalement, mais
marketing.
on parle, ouais, mais on parle plus, finalement, d'algorithmes, puis de technologie d'identification visuelle, qui est pas pour enlever, justement, que oui, c'est une technologie qui est intéressante, mais on n'est pas dans la réelle intelligence artificielle de vraiment un peu s'adapter et comprendre la dynamique. On est dans l'application, finalement, d'un moule avec des cibles.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ça reste. Il y a un développement très fort, ça c'est sûr. En termes de programmation, le développement a été très poussé. Surtout à être capable d'aller prendre des mesures sur certains points du corps sans avoir de marqueur. C'est là où on voit un rétule, par exemple, il y a déjà une grande partie du temps qui est le placement des points de mesure. Alors que là, ça se fait automatiquement. Donc il y a quelque chose de très poussé. Pareil, les points, ils sont plutôt correct, mais ça reste quand même sur certains endroits assez assez déplacée. Alors après, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire que c'est optimal, mais par rapport à ce qu'on a vu, c'était un petit peu décalé par rapport à là où on voudrait les avoir en théorie. Donc pareil, ça va faire changer du coup les mesures. Mais bon, c'est quand même un développement qui est très poussé et très très fiable. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, ça reste une mesure d'angle et mettre ces angles dans une plage de données définie, prédéfinie par un algorithme. Et c'est là que ça reste assez limité.
Mais c'est sûr que c'est là, moi aussi, que je vois plusieurs limitations. C'est un peu de ça que je suis parti. Moi, je suis bien content justement de parler avec toi parce que toi, tu as eu l'expérience, dans le fond, de l'utiliser. Moi, c'est ça que je voyais comme plusieurs limitations parce que, bon, oui, comme tu parlais, ça semble donner peut-être une hauteur de sel qui peut être approximativement bien. Mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Quand on parle, on dit ça fait un positionnement, un bike fit à seulement moins de 100 $. Mais la réalité, c'est que c'est pas un bike fit complet par rapport à ce qu'on va vraiment aller, mettons, regarder quand on va voir un spécialiste. Parce que c'était un peu de fond, ma crainte quand je regardais le concept de ça, c'est que bon, oui, c'est abordable, mais ultimement, quand on prend pas vraiment en compte les symptômes spécifiques, les restrictions spécifiques, qu'au bout de ça, on prend pas le temps de regarder les trois points de contact, donc position des cales, mais non plus aussi tout ce qui est support au niveau du pied, au support plantaire. Tu dis effectivement au niveau du guidon, au niveau du choix de la selle, de l'angle de selle, tout ça. Donc, finalement, oui, c'est une fraction du prix d'un positionnement, dans le fond, d'un bike fit complet, mais c'est finalement une fraction du service qui serait offert de toute façon.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, ça reste assez limité par rapport à ça.
Mais est-ce que tu vois pour qui, dans le fond, moi j'ai mon idée, mais je vais te la demander en premier. À
Oh,
qui
c'est
tu penses que
intéressant,
ce genre de produit-là
mais...
pourrait s'intéresser? Parce qu'on va pas dire qu'on va juste, oh non, c'est mort. Oui, on a nommé, dans le fond, les limitations.
Je dirais, un débutant, ça peut être pas mal, juste pour avoir déjà une idée, alors pr précise ou moins, plus ou moins précise, ça reste à définir, mais d'avoir un petit peu... Une idée positionnement de la selle, par exemple, comme j'avais dit, c'est sur un échantillon de 1. Après, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur plusieurs personnes, mais ça peut, pour quelqu'un qui est complètement débutant, lui donner une zone qui peut être pas trop mal. Et ça peut aussi permettre de comprendre. Je pense que c'est plus de ce côté-là qu'il faut voir l'application, c'est-à-dire que il va nous donner des choses à changer. Et si on est attentif au changement et à la manière de réagir du corps, ça peut être une forme d'apprentissage qui va permettre au cycliste d'aller ajuster lui-même certaines dimensions sur le vélo par rapport à ce qui s'est déjà passé pendant l'étude. On va dire, ah bah, on m'a fait prendre le guidon plus près, ah, je me sentais un peu mieux, il y avait un changement sur la répartition des masses ou des choses comme ça, donc ça permet d'avoir un apprentissage. Et ça peut être utile. Donc pour les débutants et peut-être pour des personnes qui n'ont pas accès à une étude posturale, s'il n'y a rien à moins de 5 heures de route par exemple, ou enfin qui sont très loin, ça peut être une façon d'avoir une étude posturale. Mais pareil, est-ce que ça va nous mettre dans une mauvaise position qui peut causer des blessures? Enfin, ça reste une question, on ne sait pas, mais ça peut être une solution pour ces personnes-là. Donc moi je dirais que c'est les deux cas. Et après, un troisième cas que j'ai trouvé qui était assez intéressant, où j'ai discuté avec quelques personnes sur des forums, et le retour en général, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui disaient que les résultats de l'application étaient très similaires à ce qu'ils avaient en étude posturale. Et en discutant un peu plus loin, on se rend compte que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont eu des rétules, BikeFit, qui ont eu des BikeFit.com, qui ont eu, voilà, bah, en gros, des systèmes qui sont aussi basés sur des algorithmes et des mesures d'angle. Et donc, bah, au final, ils utilisent à peu près les mêmes plages de données. Donc, c'est un peu normal qu'on se retrouve à peu près au même endroit. Donc, du coup, si quelqu'un a eu une étude complète, rétule ou autre, et qui veut peut-être refaire un petit ajustement, ça peut être aussi une possibilité sans avoir à refaire une étude complète.
C'était un peu la théorie que j'avais finalement moi aussi, parce que dans le fond, autant que je vois qu'il y a beaucoup de limitations potentielles, il y a aussi il y a beaucoup d'endroits, on va être réaliste que oui, il y a quand même plusieurs endroits ou certaines boutiques que de toute façon, des méthodes simplement de calculer des angles et de mettre tout le monde dans un même gabarit, ben c'est la méthode qui est déjà pratiquement utilisée. Donc, Peut-être que dans même plusieurs boutiques, quelqu'un, bon, si on n'a pas vraiment de spécialiste en boutique et que c'est finalement c'est le mécanicien ou le nouvel employé qui a eu une heure de formation, il s'est fait dire, bon, mets le genou à tel angle, le fil de plomb, mets le torseau en tel angle. Ben, probablement que cette application-là va faire potentiellement même un meilleur travail que beaucoup des méthodes qui sont faites par des humains, parce qu'au bout de tout ça, la limitation va être dans les compréhensions plus grandes de ces personnes-là, de ces endroits-là. Donc, je pense qu'il peut avoir ça peut être une application, justement, effectivement, si personne n'a des disponibles proches, et même peut-être que certaines boutiques pourraient utiliser ces systèmes-là.
Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a une partie où ils en parlent, hein, par rapport à ça dans leur marketing, c'est de s'adresser à certains magasins. Et c'est vrai que ça peut être un bon point de démarrage. Peut-être plus aussi sur la partie bike sizing, donc la définition d'une taille de vélo. Est-ce qu'on serait mieux sur un 51, un 53 ou 54, 56, enfin un médium, large. Ça peut aussi être intéressant. Toujours dans les limitations, mais ça peut déjà donner des guidances et des valeurs de base qui peuvent être intéressantes.
Moi aussi, il y a peut-être une autre application que je pourrais suggérer aux gens en fait qui voudraient économiser encore plus d'argent. Parce que si on est juste dans un système, dans le fond, de prise de capture vidéo et de mettre tout le monde dans un barème d'angle, ben si on veut se donner juste un petit peu plus de temps, finalement, moi je connais l'application qui est sur le web, de Motion Isis, MOTONYSIS. C'est finalement, on peut juste télécharger dans le fond des vidéos de nous, prendre ces mesures-là, finalement de façon manuelle, puis de les mesurer de façon gratuitement, finalement, nous-mêmes, en regardant c'est quoi les cibles. Donc finalement, oui, c'est un petit peu plus de travail, ça se fait pas de façon automatique, mais au bout de tout ça, c'est que si on veut le faire manuellement, avec les mêmes cibles d'angle que ce que MyVeloFit pourrait faire, ça peut être une option pour ceux qui veulent se donner un petit peu plus de temps pour le faire manuellement.
Ouais. Mais je dirais qu'en conclusion, sur ces applications-là, il faut pas se baser à 100% sur ce qu'ils disent, mais l'utiliser plus comme un apprentissage et ensuite faire des essais et voir s'il y a eu de l'amélioration, s'il y a toujours des problèmes et ensuite d'adapter, faire des petits changements à droite à gauche, demander, pas forcément acheter des produits à chaque fois parce que ça peut être cher, mais quand on commence à faire du vélo, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui a une boîte à pièces et il se retrouve avec une potence en 80, une 90, etc. Et on peut toujours faire des essais comme ça. Donc, je dirais que ce serait ce qu'il faut retenir, c'est faire des essais et ne pas hésiter à faire des essais soi-même, des expériences et voir ce qu'il en ressort.
Et de comprendre les limitations finalement, que ce n'est pas une analyse posturale complète au quart du prix. Il y a des limitations qui peuvent donner des résultats bien pour certaines personnes, mais il y a définitivement des limitations. Est-ce qu'on passe à la deuxième question?
Allez.
J'ai reçu une super bonne question aussi qui est, que pensez-vous des produits Redshift, en particulier la potence et la tige de sel à deux positions? Commençons par la tige de sel à deux positions pour ceux qui n'ont jamais vu c'est quoi ce produit-là. C'est vraiment un système qu'on peut faire basculer très rapidement, presque sur le même principe qu'on pourrait dire d'une tige de sel télescopique, mais plutôt que d'ajuster la hauteur rapidement, c'est le recul de sel. Donc vraiment, en faisant très rapidement juste un switch finalement, on gagne, je me rappelle plus combien, facilement 50 mm, on devance de 50 mm vers l'avant ou l'arrière, le recul de selle. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez limité comme application, qui peut être utile pour certaines personnes. Je pense qu'on en a déjà parlé. Toi, ce serait pour quelle personne que tu trouves que ça pourrait être utile?
L'ultra distance, pour moi, c'est le marché. Si, enfin, l'ultra distance ou la double utilisation du vélo, parce que, mais dans les deux cas, le point commun, c'est les skis, enfin les barres aéro pour venir se mettre en position aérodynamique. Parce que quand on arrive sur cette position-là, il faut bien souvent, enfin, on va faire tourner le bassin, on va avoir ce mouvement de rotation vers l'avant. Et donc du coup, on va bouger vers l'avant sur la selle. Donc avoir la selle qui nous suit dans ce mouvement-là, ça peut avoir un avantage. Et en plus, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'il avance, mais il ajuste aussi la hauteur de selle. Donc on a toujours la même extension sur les jambes. Donc ça, c'est une bonne compensation. Mais je dirais que c'est l'utilisation. Si on a les barres aéro sur le cintre, là, ça peut être un avantage. Après, je trouve que c'est assez limité, dans d'autres utilisations.
Ben moi, tu vois, ce qui me venait plus en tête en premier, toi tu parlais d'ultra-distance, c'est peut-être quelque chose sur un monde que tu baignes plus. Moi ici, à Tremblant, avec la clientèle que j'ai ici, c'est beaucoup une clientèle aussi, j'ai quand même plusieurs triathlètes. Et je pense que ça aussi, ça peut être une clientèle, disons, quelqu'un qui veut débuter en triathlon, qui a un vélo de route, qui veut pouvoir garder sa position de route, mais pouvoir s'entraîner de façon occasionnelle, justement. Pouvoir utiliser des aérobars encore là sur son vélo de route. Parce qu'on revient finalement, pourquoi le commun du aérobar? C'est comme tu dis, c'est aussi une question bon, d'angle du bassin. Une fois qu'on est dans l'aérobar, la position idéale de la selle dans l'aérobar ne sera pas la même que sur la position de vélo de route. Ça demande une grosse amplitude de mouvement, une grosse polyvalence finalement au niveau de l'amplitude de mouvement et de l'angle du bassin. Donc, ça va être une façon d'aller chercher un peu plus cette polyvalence-là, mais finalement, ça revient à tous les sports qu'on a besoin d'aérobars, mais qu'on n'est pas que dans l'aérobar, finalement.
Ouais. Avoir cette transition, ça peut être intéressant.
Oui. Puis, tu avais amené un bon point aussi. Est-ce que tu aimerais ça avoir un produit comme ça, mais plutôt changer le recul de selle qui change l'angle de selle?
Ouais, ça, ce serait plus intéressant pour les vélos de route. Mais donc, du coup, dès qu'on part sur des cols et on part sur 7, 8, 9, 10 km de col, l'angle de selle qui change, là ça peut être intéressant. Parce que si on met le vélo à 8 degrés, enfin 8% et d'inclinaison sur une montée, bah la selle va aussi remonter. Donc c'est là que ça peut être intéressant d'avoir un changement d'angle de selle pour venir s'adapter à l'inclinaison de la route et avoir toujours une position relativement plate. Ça
Ça
pourrait être
amène moins le
pourrait
bassin en rétroversion vers l'arrière, moins de pression sur le périnée. C'est quelque chose, effectivement, qui pourrait se faire. S'il y a une compagnie, en quelque part, qui voudrait essayer, ça pourrait même quelqu'un qui a de l'argent, qui voudrait vraiment s'acheter un produit haut de gamme, ça pourrait même techniquement être électronique et qui s'ajuste et qui reste toujours parallèle par rapport à l'horizontalité et qui reste toujours, qui s'adapte en fonction s'il voit que le vélo est à 8 degrés, mais de toujours s'ajuster presque automatiquement,
Ça va
ça
peut-être
pourrait être
ramener un peu
possible.
trop de poids.
Exactement. Je serais à peu près sûr qu'il doit avoir des limitations au niveau règlement dans les UCI qui doit restreindre ce genre de produit-là définitivement aussi. Mais effectivement, je sais que j'ai déjà vu des produits comme ça qui existent en vélo de montagne. C'était pas comme ajustable à plusieurs degrés, c'est un peu telle une tige télescopique. Dans le fond, c'est deux positions d'angle qu'on pouvait rapidement changer de haut en bas. C'était en vélo de montagne, parce qu'en vélo de montagne, je pense qu'aussi, dépendant des circuits, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que souvent les pourcentages sont souvent encore plus élevés qu'en route. Après ça, là, les limitations en vélo de montagne, c'est si les enchaînements de grimpe et de descente sont rapides, ça devient toujours quelque chose qu'il faut ajuster de façon régulière. Et non, ce n'est pas comme une tige télescopique qu'on peut le faire directement au guidon. Et l'autre problème aussi en vélo de montagne vient plus peut-être d'un point de vue mécanisme, c'est-à-dire qu'avec la boue, les contaminants, un système mécanique comme ça est disons qu'il y avait eu plusieurs retours comme de quoi que ça pouvait très rapidement devenir bruyant à cause du craquement mécanique. Donc, ça peut être intéressant comme concept. Encore là, il y a certaines limitations. Mais si on parle, je pense, de celui qui est peut-être qu'on a vu le plus souvent, disons que Redshift est peut-être plus connu encore pour ça, qui est la potence à suspension simple pivot. Donc, est-ce que c'est une révolution, les potences à suspension, qui, on va se le rappeler, je pense que ça existe depuis les années 80 ou 90, pour ceux qui sont assez vieux de ces systèmes-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Je l'ai jamais essayé personnellement. J'ai eu deux clients qui en ont eu, qui sont venus pour une étude posturale et qui avaient une potence redshift sur leur vélo. Pour eux, le retour est très positif. Il y a eu vraiment un changement, une augmentation du confort après avoir changé pour cette potence. Et c'est marrant parce que les deux, ils ont eu la même chose, le même commentaire, c'est j'espère que ma potence elle est assez longue et que j'ai pas besoin de la changer parce que sinon ça va coûter cher.
Ouais.
Mais donc pour ça, vaut mieux peut-être faire une étude posturale avant
Oui.
d'aller acheter la potence. Mais après, il y a peut-être des limitations aussi sur cette potence-là, parce que c'est simplement un pivot qui est juste après la fixation sur la potence, et ça va ramener de la flexion vers l'avant sur les poignets, et ça, pour moi, c'est pas bénéfique et c'est potentiellement problématique, parce qu'on vient vraiment agir sur la rotation du poignet.
C'est
Donc,
exactement le point. J'en ai vu aussi moi quelques-uns. Et il faut vraiment, dans le fond, pour moi que ce soit bénéfique, il faut qu'on soit comme en gravel bike, où dans le fond, le côté d'absorption des vibrations, même pas des vibrations, dans le fond, des chocs, devient vraiment prioritaire au confort sur les poignets, finalement, parce qu'effectivement, c'est que ça va faire toujours plonger. Dès qu'il va avoir un impact, ça fait plonger une rotation des mains vers le devant, vers l'avant. Ça amène une masse vers l'avant aussi. Donc, je nie aucunement, effectivement, que ça l'aide pour l'absorption des chocs, mais ça vient avec certaines complications. Donc, c'est toujours de doser lequel est le plus important dans telle situation. Donc, je pense que justement, il faut que ce soit dans un endroit où ce que les impacts sont assez grands pour que ça devienne. Donc, c'est pas quelque chose sur un vélo de route juste pour enlever quelques petites vibrations. Je crois pas que. Je pense que le négatif devient plus important que le positif à ce point-là.
ouais, pour la route, je pense qu'il y a plus, il y a d'autres options à faire avant d'aller mettre une potence comme ça. Parce que pour les chocs, je pense que oui, ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, si c'est plus sur les chocs, il y a moins de problèmes sur les poignets parce qu'on, à la limite, on vient quand même éviter un choc. Et c'est le vélo qui remonte, donc même s'il y a un petit peu de descente sur les poignets, ça atténue un petit peu la rotation. Mais ça reste quand même un problème. Et donc, si vraiment quelqu'un veut aller sur une potence suspendue, le mieux, c'est d'aller sur des potences parallèles. Donc, il y a deux marques qui sont un petit peu plus connues par rapport à ça. C'est Kinect et Meroka. Donc, où eux font des potences en articulation parallèle. Et dans ce cas-là, l'angle ne change pas. Donc, ça peut être intéressant.
Mais il y a aussi, dans le fond, on parle aussi de Specialized, qui serait comme les Diverges, les Roubaix, qui serait sur le même principe. Ça, c'est un principe, justement, oui, qui va donner une absorption des chocs sans changer l'angle de rotation du guidon. Je dirais que là, la limitation peut-être du Specialized est plus au niveau de l'entretien. C'est peut-être moins fiable, me demande peut-être un peu plus d'entretien à plus long terme que les potences que tu parles, justement. Par expérience, des fois aussi, peut-être, parce qu'avec le certain temps, les specials, ça arrive qu'avec l'usure, s'il y a trop d'usure, il y a carrément un petit jeu dans la direction. J'ai déjà vu ça.
D'accord.
Donc, ils sont ajustables. Les nouvelles générations sont ajustables. Donc, c'est bien pour ça aussi. Mais au moins, justement, tout ce qui est Future Shock reste sur le même plan, induit pas de rotation du guidon vers l'avant.
Après, par rapport au système de rotation, le système parallèle a aussi l'avantage de marcher, peu importe la position des mains sur le guidon ou sur le cintre. Si on est sur un guidon tout terrain, et dans ce cas-là, ça va aussi marcher très bien. Et alors que si on est sur une potence à pivot, vu que c'est un pivot, au plus on est loin du pivot, au plus on va avoir cet effet-là. Alors que si on est
Effet boucle.
aligné avec le pivot, ou même derrière, il n'y a pas d'effet du tout. On n'est même pas capable de le faire bouger et ça redevient une potence solide, donc enfin rigide. Donc du coup, c'est pas, c'est, on perd les avantages de la potence. Donc il faut vraiment que ce soit pour le cintre, avec la position sur les manettes, pour avoir les bénéfices de cette potence.
Mais je pense aussi que tout comme bien de ce genre de produit-là, il peut avoir définitivement des bénéfices. Mais en amont, il faut peut-être s'assurer aussi que la position est correcte. Donc moi, je t'ai dit, c'est bon, est-ce que si on a des douleurs au niveau des mains, des douleurs au niveau cervical, est-ce que la potence à suspension est une amélioration? Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment la racine du problème, ou si on a tout simplement une potence trop longue, un avancement de celle qui est trop vers l'avant, si la position n'est pas optimale, qui fait qu'on a trop de masse vers l'avant, on va pas réparer de façon complète le problème. On va un peu masquer le problème plutôt que de le régler à la base. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais peut-être à la base, il faut s'assurer d'avoir une bonne répartition de charge.
Voilà, c'est surtout ça. Je pense que ça, c'est l'élément clé. Et c'est ce qui se passe assez, enfin, souvent, qui s'est passé plusieurs fois, où des clients viennent justement en disant, oh, je pense acheter une potence Redshift, parce qu'on va dire, c'est la marque la plus connue, et pour justement aider au niveau du confort des mains. Alors que, et on fait l'étude posturale, ils repartent avec une position, une bonne position, et ils ont les informations du coup pour la longueur de potence. Mais je leur dis, essayez la position. Rouler pendant un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, mais essayez la position vous-même, essayez de voir s'il y a des différences, et ensuite vous pouvez prendre une décision si vous voulez prendre la potence ou pas. Et dans la plupart des cas, il n'y a plus besoin de la potence à suspension. Une fois que l'équilibre de masse et la position a été optimisé, il y a beaucoup moins, comme tu disais plus précédemment, il y a beaucoup moins de poids sur les mains, et donc dans ce cas-là, on ressent beaucoup moins les effets des vibrations et de la route.
Il y a beaucoup d'autres choses, à facteurs à vérifier avant, que ce soit au niveau de la position. Et même, je vais rajouter même les pneus dans la mesure où si on a une vélo avec une potence trop longue, un avancement de selle trop vers l'avant, un angle vers l'avant avec des pneus 700 par 23 à 120 PSI, la potence à suspension n'est peut-être pas la première étape.
C'est vrai, ouais. Des pneus un peu plus larges, un peu moins de pression, en tubeless ou et puis bah, la position évidemment optimisée, mais ou même des fois ça suffit d'avoir simplement un ruban de cintre un peu plus épais qui va absorber un peu plus les vibrations. Déjà rien que ça peut faire beaucoup de changements. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire avant de considérer
Donc,
ça.
un produit qui peut être intéressant, mais il y a peut-être d'autres options à considérer si on veut ce genre de produit-là que la compagnie Redshift, qui serait peut-être pas notre premier choix finalement.
Non, peut-être pas, non.
Dernière question, qui va être une question de selle sur mesure. Quelqu'un qui me dit, connais-tu les selles d'Abia? C'est une compagnie française que je connaissais pas là-bas. Elles sont faites sur mesure selon une empreinte de nos fessiers. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des selles sur mesure, toi, personnellement?
Non. Non, pas du tout. J'en ai entendu parler. Je connais quelques personnes qui ont fait des essais avec des selles sur mesure, mais jamais essayé moi-même et j'en ai jamais vu non plus.
Honnêtement, c'est quelque chose qui peut être un avantage pour certaines personnes. Je reviens un peu à qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un peu une méthode de dernier recours. Dans une globalité, il y a tellement de choses à s'assurer avant d'aller vers une selle sur mesure. Parce que comme je dis, si on prend une selle moulée sur mesure alors que la position n'est pas optimale et qu'il y a peut-être des compensations liées à la posture qui n'est pas optimale, ben, faut adapter la selle à ces compensations-là, finalement, sans les enrayer.
Oui, tout à fait. Et c'est assez commun d'ailleurs d'avoir des clients qui viennent avec des problèmes de selle. Et la selle qui est très problématique, qui va poser des douleurs, des engourdissements, des gênes. Et puis, donc, directement, la première question, c'est est-ce que vous avez des selles que je peux essayer? Il se dit bah ça on va voir, ça c'est enfin oui il y en a, mais c'est qu'un dernier recours encore, même sans aller personnaliser, juste un changement de selle, il faut vraiment attendre avant de le faire. Et dans une grande majorité des cas, la selle qui est sur le vélo va très bien. Simplement parce qu'elle était dans une mauvaise position, et du coup on interagit d'une mauvaise façon avec la selle, et c'est ça qui cause les problèmes. Alors que la selle en elle-même va très bien. Après, si la position est bonne et qu'il y a toujours des problèmes, là il faut voir pour faire quelque chose.
Pour moi, ça, c'est la bonne approche. Puis moi, j'ai tout le temps dit, c'est la dernière étape, finalement. Regarder la selle, juste m'assurer que tout le reste est dans la bonne position avant de faire la selle. Et je vais prendre ce parallèle-là pour peut-être lancer une petite pierre à Retool, justement, que j'ai travaillé avec. C'est une très bonne technologie. C'est rien contre le concept en général, mais disons, eux, les méthodes qu'ils proposent, c'est de changer la selle en premier. On va pas se le cacher, c'est parce que Retool appartient à Specialized, donc c'est une belle façon de vendre des selles. Mais la réalité étant, ça devrait jamais être pour moi la première étape, parce que de toute façon, tout peut tellement varier. Donc, petit parallèle sur le choix de selle qui n'est pas nécessairement le problème n'est pas toujours par rapport à la selle. Mais si on revient sur les selles sur mesure, donc j'ai un petit peu fouillé sur ces selles-là en particulier, les Debia, qui est de prendre un peu une empreinte. Mais comme je dis, à la base, de prendre une empreinte statique, mais de vouloir en faire une application dynamique, pour moi, c'est là où ce que il peut vraiment, ça peut vraiment amener, en quelque part, ça peut amener vers tellement de fausses pistes. C'est là pour moi qu'il y a une limitation, que l'ergonomie de la selle va avoir vraiment priori par rapport à avoir quelque chose de 100% sur mesure.
Oui, c'est vrai, ça peut être un problème. Et donc déjà, il y a le problème de passer de statique à dynamique, mais il y a aussi le problème de la position pour l'empreinte en elle-même. Est-ce que la position est la même que la position sur le vélo? Comme on disait déjà avant avec la tige de selle, qui permet d'adapter la position de la selle, la ravancer pour avoir une position plus, quand on est sur les aérobars, et avoir une position plus aéro et plus vers l'avant. Si on est plus ou moins flexible, on va faire tourner le bassin plus ou moins. Et à quel angle la prise d'empreinte, l'empreinte est prise, enfin, je sais pas trop, vu que j'ai pas d'expérience, je peux pas vraiment savoir, mais ça, c'est quelque chose où il faut être très attentif. Si on est quelqu'un de très flexible et avoir une position très agressive sur le vélo, on va avoir un bassin qui va peut-être être tourné plus vers l'avant. Et dans ce cas-là, on va interagir différemment avec la selle et l'empreinte doit être faite d'une manière différente.
C'est
Donc
que ça va
ça peut
rendre,
aussi
dans le fond,
changer.
la polyvalence de la selle beaucoup plus restreinte. C'est que le confort va venir à une position très spécifique, ce qui peut être bon pour certaines personnes. Je pense à des ultra-distances où ce que oui, on est principalement c'est à une seule sorte de position, peut-être dans certains cas, mais ultimement, si on veut avoir une dynamique, et là, on parle simplement d'angle du bassin, mais faut pas oublier non plus que latéralement, le bassin a toujours un basculement, donc on ne peut pas prendre une empreinte. Encore là, statique d'un bassin qui va bouger aussi. Donc, c'est toujours là un peu pour moi la restriction. Donc, s'il y a vraiment des asymétries, des problèmes spécifiques, surtout quelqu'un qui va avoir un problème vraiment d'avoir un ischion qui va être vraiment plus douloureux que l'autre, ça peut être justement une option. Mais encore là, faut pas penser que c'est vraiment l'option que tout le monde devrait aller vers les selles sur mesure, ça va régler les problèmes de tout le monde va être confortable sur des selles, sans vraiment avoir une attention à la posture et à l'ergonomie. Moi, un produit que je pense qu'il peut avoir peut-être un petit peu plus dans l'avenir, je serais curieux de l'essayer, qui est une compagnie canadienne, qui est la compagnie Reform. Donc, qui est un peu dans un entre-deux. C'est pas une empreinte, justement. C'est une mousse qui, on va pouvoir le brancher de façon électrique, qui fait que la mousse se chauffe, se ramollit. On pédale, donc de façon dynamique. Il demande d'avoir plusieurs angles de bassin, finalement. On demande d'aller dans les drops, on demande d'aller sur le dessus. Donc, tout est fait de façon dynamique à différents angles de bassin. Et une fois qu'on a terminé, on enlève la chaleur et ça va un peu se refroidir et se redurcir en fonction de l'empreinte qui va être prise de façon dynamique. Donc ça, je pense, c'est déjà un concept que je n'ai pas essayé encore. Je vais probablement essayer de rejoindre Reform pour en faire l'essai, qui peut déjà être plus avantageuse. Mais au-delà de ça, n'empêche que même si je fais ça avec une mousse, avec une selle qui n'aurait pas la bonne longueur, la bonne ondulation, la bonne forme latérale, la bonne coupure,
Ça
on
marchera pas.
arrive dans une impasse quand même.
Et ça nous ramène aussi sur un autre point, c'est que le marché est déjà saturé de selles. Il y a les plus gros physiques ou San Marco ou Selle Italia. Déjà, rien qu'avec ces trois marques-là, il y a énormément de choix. Et c'est probabilité proche de 100% de trouver au moins une selle qui va nous convenir. Et même si ça convient pas, il y a des selles un peu plus spécialisées comme SMP, où là, on va avoir des techniques un petit peu différentes, une progression un peu différente, mais qui, enfin, pour moi, c'est mes préférés. Mais donc, c'est quand même un petit peu plus spécialisé. Ou après, il y a même des selles niches comme la Infinity, par exemple, qui est assez bizarre. Je sais pas si tu en as déjà vu en session, mais.
Je vais répéter la réponse que j'ai dit souvent, c'est que je suis le premier à me rendre compte que elle peut avoir des bénéfices pour certaines personnes spécifiques. J'en ai jamais vu physiquement, mais juste à regarder le concept, je trouve c'est intéressant. Je crois que c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a un mérite. Pour moi, en France, je sais pas c'est quoi. En Europe, je sais pas c'est quoi. Toi, en Angleterre, je sais pas c'est quoi. Nous, ici, en Amérique du Nord, du moins, c'est qu'il y a un service à la clientèle qui est complètement absent. Donc, c'est presque plus. J'ai essayé d'en avoir sans
Je
avoir
crois
de
que c'est
retour.
une.
J'ai eu aucun retour. Puis c'est une compagnie américaine, pourtant.
Ouais, c'est ouais, ce que j'allais dire. Ouais, c'est américaine. J'en ai vu deux. Enfin, je connais plusieurs personnes qui font de l'ultra distance. Donc, on parle du TCR, par exemple, hein, donc Transcontinental. Donc, ça, c'est quand même une épreuve assez extrêmement longue et dure. Et apparemment, c'est une selle qui est très populaire sur l'ultra distance.
Oui.
Et j'en ai vu deux en session. D'ailleurs, je recommande de ne pas prendre la version avec les rails en carbone, parce que démarrer la session avec un rail qui casse, c'est pas terrible.
Ah.
Mais ouais, en plus, une personne, une femme, 55-60 kilos, et elle s'assoit sur la selle qui était quasi neuve, et le rail s'est cassé. Donc, en acier, ouais, il n'y a aucun problème par contre. Mais du coup, heureusement, elle en avait une autre qui avait le rail en acier, donc on est parti là-dessus. Mais apparemment, ils sont très, très, très fans en ultra distance de ces selles-là. Donc ce serait pas mal de l'essayer. Je crois que j'avais peut-être une ou deux personnes qui l'ont, que je pourrais l'essayer. Donc ce serait intéressant. Mais c'est vrai que c'est une forme vraiment particulière.
Tu me donneras un retour. Fait que finalement, si on veut un peu conclure sur les selles sur mesure, je pense qu'on s'entend que ça peut définitivement avoir des bénéfices pour des cas très particuliers. Mais encore là, il faut vraiment avoir fait un travail en amont d'éliminer tous les autres potentiels, autres problématiques, vraiment tout d'éliminer les dynamiques et de vraiment de trouver que c'est la seule solution, finalement, pour avoir. C'est
Ouais,
beaucoup
ou
trop.
se faire
Ce qui
plaisir.
fait que. Ouais. Ben, ce qui, au se faire plaisir, je trouve, c'est quand même risqué, dans la mesure où même si on dit qu'on a de l'argent, qu'on se paye, moi, ce que je réponds, c'est un novice qui se dit, hey, je vais tout de suite y aller avec une selle sur mesure. Et que cette selle sur mesure-là va avoir été faite sans nécessairement avoir pris en compte la dynamique de la posture et du positionnement global. C'est là que là, ça devient presque plus un problème. Mais si on fait tout le travail en amont, et c'est pour ça aussi que je pense que faut qu'ultimement ce soit idéalement un spécialiste en positionnement qui arrive au verdict de dire oui, là, je crois qu'au niveau où on est rendu, une selle sur mesure devrait être la meilleure option et que ce soit pas simplement juste de prendre une empreinte puis que ce soit quelque chose qui est fait outre-mer ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique vraiment spécifique qui est prise en compte dans la formation de cette selle-là.
Ouais. Et du coup, ça ramène aussi une autre question. Quel est le suivi? C'est-à-dire que si on fait l'empreinte, on essaye la selle et au final, c'est pas confortable. Quel recours? Quels sont les recours disponibles? Est-ce qu'on peut refaire une empreinte? Est-ce que c'est modulable d'une certaine façon? Ça, je sais pas, mais c'est aussi quelque chose à considérer.
À s'assurer, parce qu'effectivement, sans parler des. On parlait de cette compagnie de celle-là, mais j'ai déjà entendu des cas de finalement. Et de point de vue commercial, c'est presque compréhensible que, bon, une fois que c'est créé sur mesure, il n'y a peut-être pas nécessairement de façon de se faire rembourser si quoi que ce soit, on n'est pas satisfait du produit qui est, dans le fond, avec les selles traditionnelles, il y a toujours toujours des garanties possibles. Donc, oui, c'est toujours à penser en plus des coûts qui sont quand même passablement élevés. Ben, on a fait le tour des quelques questions ici pour positionnement très intéressantes. Puis, ben, je te remercie beaucoup, Romain. J'espère qu'on va se revoir pour peut-être d'autres, s'il y a des gens qui vont avoir d'autres questions au niveau positionnement. Romain, toi, si tu veux, c'est où qu'on peut te voir? Les gens peut-être aimeraient ça que tu sois en France, mais présentement, tu n'es pas en France, tu es où?
Alors oui, pour l'instant, je suis en Angleterre, à Swindon. Mon site internet, c'est getabreakfit.com. Donc si vous parlez anglais, allez faire un tour. Et il y a aussi des liens sur quelques vidéos YouTube que j'avais fait avec un YouTuber sur Londres. Donc ça peut être pas mal. Pareil, c'est en anglais. Je crois que les sous-titres marchent pas mal en traduction maintenant sur YouTube. Donc ça peut être aussi intéressant de mettre les sous-titres en français. Mais là, j'ai justement le projet de peut-être de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché français et d'offrir mes services en France aussi. Donc s'il y a des personnes intéressées, n'hésitez pas à rentrer en contact et ça peut être un bon début.
C'est une invitation à ça. Je pense qu'en France, effectivement, je me fais souvent demander des références. Ça me ferait plaisir. Et pour ce qui est du sous-titrage, effectivement, par expérience, j'aurais tendance à croire que le sous-titrage anglais marche mieux de anglais à sous-titré français marche souvent mieux que de québécois à sous-titrage français.
Intéressant, c'est intéressant ça.
Il y a des choses qui se perdent dans nos façons de parler. Donc, hey, merci beaucoup Romain et j'espère qu'on se revoit.
Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
Salut. Merci à Romain pour cet entretien et je vous laisse dans la description les liens pour en savoir plus sur son travail. Et évidemment, si vous avez des questions, ben la meilleure façon, c'est de les poser sur les différentes vidéos de la chaîne YouTube de Martin Surgeon Service Cycliste. Et je vous dis à la prochaine. VéloGeek est présenté par Martin Turgeon Service Cycliste, le studio spécialisé en positionnement et ergonomie cycliste situé à Mont-Tremblant. Avec une approche personnalisée, des technologies comme la cartographie de pression de selle et les capteurs de mouvement dynamique, et bien entendu, mon expérience et savoir-faire, le confort et l'optimisation de votre vélo vous attend. Pour venir me voir en consultation, prenez rendez-vous au mt-servicecycliste.com. VéloGeek est également propulsé par Vélomag, le magazine cycliste numéro 1 au Québec. Guide d'achat, banc d'essai, guide d'activité, voyage, nutrition, entraînement, trucs de pro, Vélomag aborde le vélo sous tous ses angles. Disponible en format papier partout au Québec et en format numérique partout dans le monde. Pour vous abonner, consultez levelomag.com.